Bonjour. Aujourd'hui, on devrait commencer avec les céréales, mais il nous reste encore un arbre à discuter. Un arbre fort difficile qui va prendre beaucoup de temps, malheureusement. La première attestation syllabique du terme acadien Erénou, traditionnellement interprété comme cèdre, date de la période sargonique et se trouve dans la fameuse incantation Materials for the Akkadian Dictionary 5, texte numéro 8, ligne 29. Shirgua idashu, shamnum utibutum shaptashu, asam shamnim inkratishu, asam erinim inbudishu. Ses bras sont beaux, ses lèvres sont huile et tibutum, probablement une plante. En vaisseau d'huile est dans sa main, en vaisseau de cèdre, ou d'huile de cèdre est sur son épaule. Pour Miguel Civil, une forme apparentée à un autre terme est attestée aussi dans le vocabulaire bilingue héblaïte, à savoir urinum, comme un équivalent du sumérien guiche ou sur 4 dans Vocabulario di Ebla 1362. Plus spécifiquement, Civil fait référence à la variante Urinum, attesté comme une désignation du cèdre dans les documents nousiens. Les dictionnaires acadiens ne proposent aucune étymologie sémitique pour ce mot, tout en observant son identité avec le terme sumérien Eren, qui probablement désignait la même espèce d'arbre. Il n'est pas impossible néanmoins qu'une étymologie sémitique pour l'acadien Erénou puisse être trouvée. Plus concrètement, il s'agirait des désignations botaniques ou sémitiques qui peuvent être réduites à une protoforme commune ar-ar. Les réflexes de cette protoforme sont connus pour être appliqués à deux espèces botaniques en principe tout à fait différentes, à savoir le tamaris et le genièvre. Essayons de suivre la distribution de ces deux significations dans le domaine sémitique, une langue après l'autre. En arabe, l'interprétation du ar-ar comme genièvre est assurée par des définitions détaillées de la lexicographie traditionnelle, ainsi que par la présence de ce sens dans l'arabe standard moderne et dans l'usage dialectal. Dans la Bible hébraïque, les réflexes de notre racine sont attestés deux fois dans le livre de Jérémie. « Vehayake ar-ar ba'arava » il sera comme des arbres Ar-ar, dans le désert, chapitre 17, verset 6, Tihiena ka aroer bamidbar, vous serez comme des ar-ar dans le désert, chapitre 48, verset 6. Évidemment, on ne peut pas gagner beaucoup d'informations contextuelles pour l'identification de l'arbre de ces passages. Les traductions classiques ont opté pour Tamaris, la Septante Murike. Pour quelques commentateurs modernes, la mention de l'habitat désertique a été un sérieux argument en faveur de cette identification. C'est cette opinion qui est codifiée par un des dictionnaires standards de l'hébreu biblique, à savoir BDB. Pour plusieurs autres savants, l'étymologie arabe a été la clé principale pour l'identification botanique du terme hébreu, d'où genièvre dans Köhler-Baumgartner, ainsi que dans l'usage actuel de l'hébreu moderne. La remarquable différence structurelle entre les deux formes hébraïques en question, ar-ar et aroer, doit attirer notre attention. Dans un contexte synchronique interne de la langue hébraïque, la seconde forme n'est qu'une étrange variante morphologique difficile à expliquer. Cette vision change radicalement dans la perspective comparatiste. L'opposition ar-ar versus ar-ar n'est rien d'autre que la position du singulier au pluriel apophonique, dit brisé en arabe, où cette procédure est régulièrement attestée pour tous les noms quadriconsonantiques, y compris ar-ar genièvre, que je viens de mentionner. Qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence fortuite devient clair si on compare les contextes où les deux formes sont attestées. Effectivement, la variante ar-ar correspond à une forme verbale au singulier, vehaya, tandis que la variante aroer s'accorde avec tihiena au pluriel. Existe-t-il une explication diachronique pour cette variation? Pour certains sémitisants, le modèle du pluriel brisé, fa'il, est un phénomène sémitique commun généralisé dans les langues du Sud, mais marginalisé ailleurs. Dans le cadre de cette approche, l'opposition ar-ar versus ar-er pourrait être comprise comme un occasionnalisme archaïque ou archaïsant. Pour d'autres auteurs, dont je suis, ce type de pluriel brisé est un trait exclusivement sud-sémitique, et sa présence dans d'autres langues sémitiques ne peut être due qu'à un emprunt. Pour moi, supposer ici une influence proto-arabe ne serait pas trop osé, et la distribution du toponyme Aroer en Transjordanie et dans une région au sud de Juda pourrait militer, elle aussi, pour une telle possibilité. L'obstacle le plus important contre cette hypothèse est d'ordre linguistique, plus précisément phonologique. Dans un proto-arabisme relativement récent, on ne s'attendrait pas à ce que se produise le fameux Canaanite shift, c'est-à-dire la labialisation du long A proto-sémitique. Une solution définitive pour ce cas énigmatique doit donc encore être proposée. En syriaque, la forme avec réduplication ar-ora s'applique à la résine du tamaris, tandis que la plante elle-même est désignée par une forme structurellement plus primitive ar-ra. Dans le corpus ougaritique, enfin, le terme botanique ayn-resh est attesté trois fois. Deux exemples sont concentrés dans l'incantation contre les serpents, Kateu en texte numéro 100, les lignes 64-65. Il rejette le tamaris, ar-ar, de parmi les arbres, et la plante de la mort, de parmi les buissons. Au moyen du tamaris, il l'éloigne, au moyen de la grappe de dattier, il le chasse. Traduction de Denis Pardy. La troisième attestation, un peu moins claire, se trouve dans le texte rituel en 109, ligne 29. Pour Ba'al Tzapani, l'offrande dans les tamaris, 30 fois. Encore une fois, traduction de Denis Pardy. Pour Pardy, l'identification avec le tamaris est certaine, parce que, je cite, le tamaris, Binu, joue un grand rôle dans les Namburbi mésopotamiens, et parce que le ar-ar est une plante du désert. La mention de Sassanuma, grappe de dattier, dans la ligne qui suit immédiatement, pourrait être prise comme un troisième argument, quand l'association entre le dattier et le tamaris est bien connue dans les textes rituels mésopotamiens, comme l'a montré Michael Streck dans son étude sur la palme et le tamaris en Mésopotamie. Au final, on peut constater que malgré la différence sémantique, l'identité étymologique entre les mots ouest-sémitiques est difficile à nier. Quelle est donc la sémantique originelle de la protoforme occidentale ar-ar, tamaris ou genièvre? Au vu de la nature des données discutées plus haut, le choix risque d'être arbitraire, mais il semble qu'un argument entendu en faveur de tamaris puisse être trouvé dans la tradition arabe concernant l'arbre ar-ar. Selon Kazimierski, il, le genièvre ar-ar, est réputé ennemi du palmier et tenu à distance de ce dernier. On remarquera que cette allusion est difficile à séparer de la fameuse controverse entre la palme et le tamaris discutée en détail dans l'article de Streck que je viens de mentionner. La raison d'être de l'antagonisme palme-tamaris dans la littérature mésopotamienne reste jusqu'à aujourd'hui mal comprise. Michael Streck a consacré à ce problème toute une section dans son article où il indique plusieurs raisons possibles sans parvenir à aucune solution définitive. Au vu de la tradition arabe que je viens de citer, dont les sources doivent évidemment être étudiées de façon beaucoup plus détaillée, on se demande si la raison principale de cet antagonisme ne devrait pas être recherchée dans le domaine des techniques de la culture du dattier. Ne serait-il pas en effet incompatible avec le voisinage de Tamaris? En ce qui concerne la tradition arabe sur l'incompatibilité du dattier avec le genièvre, la seule explication diachronique que je puisse envisager est qu'une ancienne tradition concernant le tamaris et le dattier a été transférée au genièvre quand le mot commun ou sémitique a changé son sens en arabe. Le passage sémantique du tamaris au genièvre, ou inversement, qu'on doit postuler pour quelques langues ou sémitiques dans le cadre de cette approche, est moins compliqué que ce qu'on pourrait penser. Bien sûr, les deux espèces sont complètement différentes du point de vue de la systématique botanique, en commençant par le fait que le premier est un arbre feuillu et le second en conifère. Néanmoins, une convergence morphologique est tout à fait évidente dans ces cas. Les feuilles de tamaris ont été souvent décrites comme, je cite, « très petites, alternes et écailleuses, un peu semblables à celles de certains conifères ». La différence entre cèdre d'un côté et tamaris ou même genièvre de l'autre est naturellement beaucoup plus sérieuse, mais probablement pas insurmontable pour postuler une ancienne parenté étymologique entre les mots qui les désignent. Quelques variétés de genièvre, par exemple Juniperus polycarpus, bien répandues dans les régions montagneuses à l'est de la Mésopotamie, peuvent atteindre 20 mètres de hauteur, et on n'hésitera pas à rappeler que pour certains assyriologues, la location orientale de la forêt des cèdres dans les légendes sumériennes de Gilgamesh a été un argument décisif pour l'identification du sumérien Eren avec le genièvre et non pas le cèdre. Pour une présentation équilibrée de ce complexe problème, voir un article spécial de Jacob Klein et Kathleen Abraham. Du point de vue de la phonologie historique, la relation étymologique entre l'acadien Erenu et la protoforme ouest-sémitique Ar-Ar ne pose pas de problème majeur. L'hypothèse la plus probable consiste à envisager une protoforme Aran qui représenterait un ancien élément Ar, sans reduplication, mais augmenté avec le suffixe An, bien répandu dans les dérivations nominales sémitiques et acadiennes. Au vu de la forme syriaque Arra mentionnée plus haut, l'existence d'une telle forme primitive n'est guère improbable. D'un autre côté, on ne doit pas exclure une reconstruction Ar-Ar, identique à celle postulée pour les formes occidentales, mais avec une dissimulation des sonores, donc Ereru passe à Erenu. Dans les deux cas, le passage du A à E est tout à fait régulier et par conséquent favorise l'identification proposée. Si l'approche étymologique ici proposée est acceptée, le mot sumérien Eren doit être considéré comme un ancien emprunt acadien et non l'inverse, comme l'a supposé Steven Lieberman dans son livre sur les emprunts sumériens dans le paléo-babylonien. Une approche plus modérée peut être retrouvée dans le Ahavé de Fonsoden, qui se borne à constater la parenté entre les deux mots sans préciser les détails diachroniques. Les auteurs du CAD n'énoncent pour leur part aucune opinion sur ce problème. On finit avec les arbres et on passe aux céréales. Les noms acadiens des céréales ayant une étymologie sémitique plus ou moins assurée ne sont pas nombreux. Je ne connais guère plus de 5 ou 6 termes pertinents. Le premier terme que je vais discuter, c'est le numéro 28 dans votre handout, c'est Boukle, Malte, dont les attestations syllabiques sont assez abondantes dans les documents paléo-babyloniens et surtout paléo-assyriens. Pour les auteurs du CAD volume B, le plus ancien exemple syllabique est attesté dans le document sargonique Revue d'Assyriologie 55, page 94, ligne 3, Bu-ug-lu. Mais comme l'a montré Martin Stoll dans son article Malte du Real Lexicon der Assyriologie, le contexte de ce document ne favorise pas cette identification. Néanmoins, dans son explication de ce passage, Stoll préfère ne pas rompre complètement avec l'acadien Buklu en normalisant Bu-uk-lu comme Buklu avec une traduction assez générale « légumes ». Une approche différente et récemment proposée par le CADP me paraît préférable. Ici, Bu-uk-lu dans ce texte est rendu comme Puglu, radis, sans aucune relation avec les termes acadiens et sémitiques discutés présentement. À Ebla, notre mot est clairement attesté dans l'entrée Vocabulario di Ebla 856 de la liste lexicale bilingue, Buklu, équivalent au sumérien Munu 3. En outre, pour certains savants, il existe encore un parallèle pour ce terme dans la liste Eblaïte, à savoir Bugalu, équivalent au sumérien Hisar dans l'entrée 1073. Telle est par exemple l'opinion de Åke Sjöberg. Comme l'observe judicieusement Martin Stoll, l'équivalent sumérien Hisar ne favorise guère une telle identification, mais milite plutôt en faveur d'une sorte de salade. On se demande bien sûr si Puglu, radis déjà mentionné plus haut, ne serait pas un candidat acceptable en l'absence d'aucune comparaison alternative plus convaincante. On sait depuis longtemps qu'une des lectures phonétiques sumériennes pour la combinaison pap plus pap ou dim 4 qui désigne le malt et correspond à l'acadien Buklu et Bulu-un ou Bulu-ug, donc Bulung 3. Il est bien sûr tentant de supposer une relation étymologique par métathèse entre les mots sumériens et acadiens. Et au vu d'une étymologie sémitique tout à fait évidente qui va être présentée tout de suite, on devrait supposer un ancien emprunt acadien en sumérien et non l'inverse. Une telle hypothèse, implicite déjà dans le traitement classique de nos termes par Hrozny, paraît assez problématique aujourd'hui, car on sait que dans tous les cas où pap plus pap correspond à Buklu dans les listes lexicales, c'est la lecture Munu et non pas Bulung ou Bulug qui a été choisie par les compilateurs anciens. La lecture qui nous intéresse est réservée en revanche pour le sens grandir, croître, appliqué aux enfants et aux plantes. Dans la mesure où ce dernier sens est lui aussi très bien attesté pour la racine b, l dans la langue sémitique, par exemple l'arabe bakala, croître, commençait à avoir des feuilles, l'hypothèse postulant un ancien emprunt sémitique en sumérien garde tout son attrait. L'acadien buklu peut être clairement tracé à la racine proto-sémitique bokl ou bakl, avec un sens assez général comme plante cultivée, graine, céréale, qui doit probablement être postulée à la base du syriaque bukala, grain, semence, l'arabe bakl, plantes qui ne sont ni arbres ni arbrisseaux, légumes, toutes plantes qu'on recueille après l'avoir sémée, le sabéen bakl, plante cultivée, plantation, le minéen et le katabanien bakl, planté, le ghez bakl, plante, herbe, végétation, le mehri bekil, le jibali bekil, plante qui croissent après la pluie. Mais peut-être doit-on suivre Stoll, pour qui le composant sémantique croître, poussé est le plus important ici, d'où sa traduction grüne sprissende Pflanze. En tout cas, on ne manquera pas d'observer la coïncidence frappante entre l'acadien et quelques langues néo-éthiopiennes, où les réflexes du bakl proto-sémitique s'appliquent non seulement au malt, mais aussi à la bière qu'on prépare avec, par exemple Tigré Bekril. Et de fait, c'est cette coïncidence qui avait fasciné Hrozny au point de proposer pour la première fois dans l'histoire de notre discipline la traduction malt pour l'acadien buklu. Il est difficile de savoir pourquoi un mot si répandu dans la langue sémitique n'a laissé presque aucune trace dans le domaine cananéen. La seule exception que je connaisse est la locution « kamho bokli » dans les textes hypiatriques ougaritiques. « Dabilatu yathanatu wa tsimukuma tsa numa wa kamhu bukle yutsaku bi apihi. Une vieille boulette de figues, des vieux raisins et de la farine du malt broyée ensemble doivent être administrés par ses narines. Traduction de Denis Pardy adaptée. Les deux éditions standards de ce texte, Pardy et Cohen-Sivan, sont unanimes dans leur traduction farine de malt pour cette locution. Selon Pardy, je cite, nous avons maintenant d'après le texte des Blas, nous savons maintenant que d'après le texte des Blas, que le mot bouclou était connu dans le Levant dès le troisième millénaire. À mon avis, la présence de ce terme dans la liste lexicale héblaïte n'offre pas d'argument définitif pour son usage actuel dans les langues sémitiques de la région, et il ne serait tentant de supposer que la combinaison kamhobukli en ougaritique ne représente qu'une adaptation, une sorte de loan translation dans la terminologie anglaise, de la phrase acadienne correspondante kem bukli. Une phrase qui, comme Pardy l'observe à juste titre, ne paraît pas être syllabiquement attestée dans les sources jusqu'à présent. Numéro 29. La signification exacte de l'acadien outetou, comme désignant une céréale dans les différents strata de la langue acadienne, n'est pas, à mon avis, encore suffisamment bien comprise. Les traductions blé, orge et céréales en général peuvent être trouvées dans les dictionnaires ainsi que dans des études dédiées à telle période ou dialecte. Et on attend avec beaucoup d'impatience la parution du volume « ou » de Tsehade pour une opinion commune moderne. La signification générale « céréale » paraît convenir avant tout pour la période paléo-assyrienne, comme on peut déduire des passages comme « 21 Naruk Uttatam Mishlum Sheam Mishlum » Arshatim, 21 sangs de grain, moitié en orge, moitié en blé, cité d'après CAD, ou 8 Naruk Uttatum, Shabba de Naruk Arshatum, 8 sacs de grain, donc dont 2 sacs de blé, cité d'après l'ouvrage de Cécile Michel sur l'alimentation paléo-assyrienne. Mais comme Michel l'observe à juste titre, le problème peut être encore plus compliqué, car quelques exemples de formulations dites tautologiques sont connus, à savoir « sank naruk sheam mishlum sheum mishlum arshatum » cité d'après Michel. Les exemples paléo-babyloniens restent à étudier en détail, une certaine incertitude étant observée même dans les traductions récentes de Klaas Feenhoff, Tal Babylonische Briefe 14, comparé She Utetia, My Barley Corns, et Mimma Utetum Ul Ibashi, No Grain of Barley is Available. En outre, au vu de la collection d'exemples présentés par von Soden dans Ahave, on peut remarquer que l'usage de Utetu, Uttatu comme désignant une céréale est beaucoup plus répandu en assyrien qu'en babylonien. Du point de vue étymologique, le mot acadien est inséparable du proto-sémitique hintat, traditionnellement défini comme blé. La différence vocalique entre U en acadien et I dans les langues occidentales est inattendue, mais pas sans précédent. Comparer l'acadien utsu, flèche, avec son prototype sémitique hiv, représenté par exemple par l'hébreu chetz. La traduction généralement acceptée pour la reconstruction proto-sémitique, blé, froment, se base évidemment sur les données de langue sémitique centrale, à savoir l'ougaritique het, het, tet, tau, l'hébreu hitta, le syriaque hetteta et l'arabe hintat. Le même sens est propre aux socoteries hinte, mais comme on apprend arabe apparaît très probable dans ce cas, la valeur de la forme socoterie est assez réduite. En revanche, le sens des parallèles sud-arabiques modernes continentaux et éthiopiens est très différent, à savoir mehri, hitat, grain, djibali, hit, aliment en général, fève, toute céréale, l'anglais staple food, any cereal, et hitet en épi de riz, an ear of rice, gez, hitat, hitat, grain, 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 semences. La ressemblance sémantique entre ces termes sud-sémitiques et l'acadien ne doit pas nous échapper, car elle peut avoir des conséquences pour la reconstruction sémantique au niveau proto-sémitique. En effet, le sens blé apparaît plutôt comme une innovation du sémitique central, tandis que les zones latérales, comme souvent, ont possiblement préservé la sémantique originelle plus générale, grain, semence. La structure phonologique des termes sud-sémitiques est aussi fort intéressante, car le N proto-sémitique, si vraiment originel, n'aurait pas dû tomber, comme en sud-arabique moderne, ni s'assimiler, comme en éthiopien. Depuis l'édition des textes émariotes par Daniel Arnaud, plusieurs savants ont voulu découvrir en réflexe de Hintat comment west-sémitisme dans l'acadien démarre, à savoir dans le nom divin Dingir Kaskal Kurramesh, Sha-Chi-Id-Di, supposément le dieu Balir du froment. Malgré l'opinion commune, cette identification, difficile à prouver contextuellement, reste extrêmement difficile du point de vue linguistique, car virtuellement aucune forme masculine de ce terme n'est connue dans aucune langue sémitique, une possible exception faite seulement pour le sud-arabique moderne, Jibali-Hit. Contrairement à ce qu'affirme Pentuk, les données ougaritiques ne changent en rien la situation. La forme h-n-t pour le masculin singulier, cité par lui, ne paraît pas exister et serait de fait difficile à imaginer avec un n non assimilé, tandis que le pluriel het-tav même, bien attesté bien sûr, ne présuppose jamais une forme masculine au singulier. Il s'agit d'un modèle de formation du pluriel des noms féminins très bien connu dans la langue sémitique, avec dans le cas présent un parallèle évident en hébreu « hitta hittim ». Numéro 30. Les attestations du « burrum » pour désigner une céréale sont limitées au texte paléo-babylonien de Marie et Chagarbazar. Pour une description des exemples mariotes, voir toujours le commentaire de Jean Bottero dans ARM 7. Comme l'observe Bottero, le terme doit être apparenté à plusieurs désignations des céréales dans le domaine ouest-sémitique, dont la protoforme a été reconstruite comme burr par Fronzaroli, sur la base de l'hébreu bar, l'arabe burr, le sabéen bara, le mehri bar, le djibali bohr, le socotri bor. La traduction blé attribuée à cette reconstruction se base surtout sur les données arabes. Pour le sabéen bara, Alexander Zima connaît 6 passages où ce terme, 4 fois suivi par se, de, ein, re, orge, désigne clairement une espèce concrète de céréales, probablement le blé. En hébreu, la nature des passages relativement peu nombreux où bar est attesté est telle que la traduction générale « grain, céréales » adaptée par les dictionnaires paraît raisonnable. Par exemple, Jérémie, chapitre 23, verset 28. « Ma la teven et habbar »« La paille a-t-elle quoi que se voit avoir avec le grain ?» Les formes sud-arabiques modernes désignent le maïs, selon Johnstone, bien que la traduction « froment » soit présente dans le lexique Socotri de Leslau. Pour Fronzaroli, la forme nominale commune « burr » doit être dérivée de la racine verbale « brr » assez répandue dans la langue ouest-sémitique avec le sens « être pur, clair », le lien sémantique entre les deux reposant sur l'idée du grain comme substance pure débarrassée de la balle. Selon Giovanni Conti, « burr » est aussi attesté dans la liste lexicale héblaïte, à savoir « burtum » comme l'équivalent du « ninda gemetu » dans « Vocabulario di Ebla 81, source I ». Dans les autres sources, pour cette entrée, on trouve « akalu dingir nisaba »« pain de la déesse nisaba » ou « dingir nisaba »« la déesse nisaba » tout court. La comparaison de Conti doit être sérieusement prise en compte, bien que l'équivalence sémantique ne soit pas parfaite et le « t » féminin soit absent dans toutes les formes ouest-sémitiques connues jusqu'à présent. Quelle est l'origine des formes héblaïtes et mariotes? S'agit-il d'un ancien mot proto-sémitique perdu dans l'acadien standard de l'Est, mais préservée dans les régions plus occidentales? Ou doit-on, au contraire, considérer ces termes comme des westsémitismes locaux qui n'ont pas affecté la Mésopotamie? Il n'y a pas chez les savants de réponse unanime à cette question. Selon Conti, par exemple, le terme héblaïte est un mot occidental et le Burrum Mariot est, lui aussi, explicitement qualifié comme amorite par le même auteur. Personnellement, je suis enclin à partager ce point de vue. D'un autre côté, on doit remarquer que ce terme est absent de la liste de westsémitisme potentiel attestée en paléo-babylonien proposée par Streck, une liste qui, en principe, prend en compte la plupart des hypothèses d'emprunt, même lorsqu'elles sont rejetées par Streck lui-même. Numéro 31. La désignation acadienne de l'orge, She'u, est empruntée au sumérien She. Dans le cadre de cette conférence, il m'est clairement impossible d'aborder en détail le problème très compliqué d'une possible lecture ou pour l'acadien ou vent pour le sumérien respectivement. Pour une utile présentation bibliographique récente sur ce problème, l'entrée 579 chez de la nouvelle liste des signes de Borger peut être consultée. En tout cas, une telle lecture ne présuppose aucun prototype sémitique ayant une valeur terminologique botanique. Dans les langues sémitiques centrales, les équivalents de l'acadien She'u peuvent être réduits à la protoforme S'ein-R, représentée par le logarithique Shin-Ein-R, l'hébreu Se'ora, le syriaque S'arta, l'arabe Sha'ir et le sabéen S'de-Ein-R-Ra. Étant donné que la vocalisation des formes ougaritiques et sabéennes est inconnue, une reconstruction vocalique cohérente pour ce terme n'est pas possible, car les formes hébraïques et araméennes d'un côté et la forme arabe d'un autre côté sont radicalement incompatibles et doivent refléter différents modèles de restructuration morphologique, l'anglais « morphological rebuilding ». Selon une vieille hypothèse reprise par Fronzaroli, Soar, orge, a son origine dans le terme anatomique commun beaucoup plus répandu que la désignation botanique, à savoir Sa'arat, chevaux, l'acadien Shartu, l'arabe Sha'ar, l'hébreu Se'ar, etc. On a supposé en particulier qu'une telle dérivation s'accordait bien avec les traits morphologiques spécifiques de l'épi de l'orge, une céréale à cheveux, à savoir ses longues arrêts. Il convient toutefois de prendre en compte que les termes sémitiques centraux en question ne sont pas complètement isolés dans la branche ouest sémitique, mais sont clairement apparentés à quelques formes éthiopiennes, Ge'ez, Sa'ar, et sud-arabique moderne, Mehri, Ser, Djibali, Sa'ar. Dans les deux cas, il s'agit de termes ayant un sens très général, plante, herbe sauvage, sans aucune relation avec l'orge, ni avec les céréales ou les plantes cultivées en général. On a parfois voulu retrouver la désignation occidentale de l'orge comme on en prend dans le texte acadien de Marie. Le passage en question est ARM 3, texte 31, ligne 8, dont la lecture traditionnelle Shukhrim a été corrigée en Mahrim par Jean-Marie Durand. Grâce à la nouvelle lecture, la possibilité d'un emprunt dans ce cas est éliminée. Numéro 32. L'acadien Duchnu désigne le mil dans les textes attestés depuis le médio-babylonien et le médio-assyrien. Son absence complète aux périodes plus anciennes ainsi que dans les listes lexicales ne favorise pas une origine acadienne autochtone. Il s'agit plus probablement d'un emprunt ouest-sémitique relativement ancien ou même d'emprunt indépendant d'une troisième langue inconnue en acadien ainsi que dans les langues ouest-sémitiques. La vaste présence de notre terme dans le document de Nuzi est ainsi tout à fait remarquable. Dans ce contexte, le proto-sémitique Duchn, reconstruit par Fronzaroli sur la base de l'acadien Duchnu et de ses parallèles ouest-sémitiques tels que l'hébreu Dochan, le syriaque Duchna et l'arabe Duchn, devient assez problématique. On ne manquera pas de remarquer que le terme hébreu, lui aussi, n'est attesté qu'une seule fois dans un passage tardif d'Ézéchiel chapitre 4, verset 9, où l'accumulation la plus grande possible de nombre de céréales, froment, orge, fèves, lentilles, mil et potres, est évidemment intentionnelle. Numéro 33, enfin, l'Acadien Kunashu et potre est bien attesté syllabiquement dès la période paléo-babylonienne. Comme il est reconnu au moins depuis Grozny, ce terme est étymologiquement identique à la désignation araméenne commune de cette céréale kunat, représentée par Syria kunata et d'autres termes araméens que vous trouvez dans le handout. Puisqu'un type de relation entre les deux mots, acadien et araméen, est absolument évident, il nous reste à établir la nature de cette relation. S'agit-il d'un terme proto-sémitique qui, accidentellement, a été perdu dans toutes les langues sauf l'acadien et l'araméen? Ou doit-on postuler un ancien emprunt acadien en araméen? Au moment présent, il n'existe pas de consensus sur ce problème. Pour quelques savants, la correspondance du « che » acadien au « te » araméen doit sans aucun doute signaler que la parenté entre les deux mots est de la nature génétique. Telle est la position des Fronzaroli qui n'hésite pas à postuler une reconstruction proto-sémitique « kunaf » pour ce terme. Pour moi, en revanche, une comparaison lexicale bilatérale entre un mot acadien et un mot araméen est toujours suspecte. J'aurais bien voulu suivre Grozny, ainsi que plusieurs autres savants après lui, qui ont postulé un emprunt acadien en araméen. Mais comment pourrait-on prouver cette hypothèse? L'acadien « che » ne donnerait jamais un « te » en araméen, ni dans un mot apparenté génétiquement, ni dans un emprunt. C'est donc un « te » interdental qui, en tout cas, doit être postulé dans le mot source acadien. Mais on sait très bien que la distinction entre « che » et « th » qui en fait existait en acadien à l'aube de sa formation comme une langue écrite a commencé à disparaître dès le Sargonique tardif, texte de la période de Naram-Sin et Shar-Kalé-Shari, et s'évanouit complètement de la troisième dynastie d'Ur. Quel type de langue araméenne peut-on donc postuler pour la seconde moitié du troisième millénaire à laquelle une certaine forme proto-acadienne de notre mot aurait pu pénétrer? Il est remarquable que Kunashu n'apparaît pas dans le livre sur les emprunts acadiens en araméen de Stephen Kaufman, où, néanmoins, deux intéressants parallèles peuvent être trouvés, à savoir Patura, l'araméen Patura, table, emprunté à l'acadien Pashuru, et Atura, Assyrie, qui dérive de l'acadien Ashur. Dans les deux cas, la présence du th dans la protoforme n'est guère évidente, mais ne peut pas être exclue non plus. Dans l'acadien Pashuru lui-même, ainsi, l'acadien Pashuru lui-même doit être emprunté au sumérien Banshur, et par conséquent n'est pas un mot sémitique en général, mais à en juger par les valeurs anciennes des signes acadiens de la série Sh. Il n'est pas impossible que le « ch » sumérien ait été phonétiquement proche de ce que considère comme le réflexe sargonique du « th » proto-sémitique. Le second cas est bien sûr encore plus compliqué. Et ce n'est qu'on peut supposer avec une grande précaution que Ashur vraiment possédait un « th » dans la protoforme, si le nom de la ville et du pays d'Assur est vraiment identique au nombre des vents correspondants et si le nombre des vents Assur est vraiment apparenté au théonyme ouest-sémitique comme l'Athirato ougaritique. Comme on l'a noté depuis longtemps, la forme akkado-araméenne kunath est à un certain degré similaire aux désignations de l'épôtre en hébreu et en ougaritique, à savoir l'ougaritique ksm et l'hébreu kusemet. Ces formes sont d'habitude expliquées comme des dérivés nominaux de la racine verbale « que se me »,« couper »,« fendre ». Une telle dérivation n'est pas improbable du point de vue de la typologie d'évolution sémantique. Comme l'a observé déjà Grozny, le mot latin « spelta », d'où le français « épôtre » et une bonne partie des autres désignations de cette céréale dans les langues européennes modernes, telles que l'anglais « spelt », est clairement apparenté à la racine indo-européenne spell, couper, fendre. Une motivation pour ce développement sémantique a été cherchée, et non sans raison, soit dans les techniques spéciales nécessaires au battage de cette céréale, soit dans quelques particularités morphologiques de sa graine. En outre, on se demande si une dérivation similaire pourrait être responsable de l'émergence de la désignation sumérienne des potres, à savoir Ziz II. Ce terme, sans aucune motivation évidente au sein de Sumériens, a été déjà interprété comme acadisme par Steiner, mais son étymologie, Kinshu, une spilforme acadienne inexistante, avec la palatalisation du k en che, acadien correspondant à z en sumérien, peut difficilement nous convaincre, voire en dernier lieu, une critique tout à fait justifiée dans le récent ouvrage de Walter Sommerfeld sur les plus anciens emprunts sémitiques sumériens. On ne manquera pas de noter, en revanche, que le terme zizou, soit une rare désignation d'épôtre, existe aussi en acadien. Depuis Botero, on la considère toujours comme un sumérisme, en négligeant qu'une dérivation à partir du verbe acadien zazu, divisé, séparé, pourrait offrir un excellent parallèle sémantique aux termes hébreux et latins discutés ci-dessus. Si la présente hypothèse est correcte, c'est le terme sumérien qui doit être considéré comme un acadisme, et non pas vice-versa. On commence avec la partie 10, la dixième partie de ma présentation, les plantes domestiques, les légumes, et le premier terme, numéro 34, probablement le terme plus compliqué dans toute la terminologie botanique acadienne qu'on a du point de vue diachronique. Je crois que je peux seulement commencer la présentation aujourd'hui, on devra la suivre la fois prochaine. C'est le numéro 34 dans le handout. L'acadien Shumu, Aï, bien attesté syllabiquement dans les Mésopotamies proprement dites dès la période paléo-babylonienne, montre un clair précédent à Ebla, à savoir Shumi comme le second élément de l'expression Lima Shumi dans la liste lexicale MEE 3, texte 61, 61 versant, 4e colonne 6. Cette entrée a été interprétée par Miguel Civil comme un pot pour broyer l'ail, bowl for crushing garlic, Lima étant compris comme une écriture syllabique du logogramme bur, pot. Pour Civil, un réflexe acadien de ce mot est l'umu, un petit pot, bien attesté dans la liste lexicale du premier millénaire. Le mot acadien est clairement apparenté à plusieurs termes ouest-sémitiques qui désignent l'ail, à savoir l'hébreu shumim, le syriaque tuma, l'arabe thum, le mehri thimet, le djibali thum, le ghez som, somet. Dans le dernier cas, le vocalisme irrégulier pourrait indiquer un arabisme. Pour plusieurs savants, y compris Fronzaroli, il s'agit d'un terme proto-sémitique très ancien qui pourrait être reconstruit comme thum. Il est bien connu néanmoins qu'une désignation de l'ail ou d'une autre sorte de bulbe, comme on le verra plus loin, existe aussi en sumérien, à savoir sum, dont la première attestation certaine se trouve, selon Walter Sommerfeld, dans le texte Ur Excavation Text 2, numéro 153, verso, colonne entrée 5, Gan Sum, en chant d'Aï, datant de la période de l'Ur archaïque. Comme Sommerfeld l'a observé dans son analyse critique fondamentale des sémitismes possibles dans les plus anciennes sources sumériennes, la correspondance entre la forme sémitique Thum et le sumérien Sum est, malgré le désaccord des surfaces, phonétiquement parfaite. Comme on le sait maintenant, l'intuition pionnière de François Thureau d'Angin et de Hundnat en ce qui concernait l'évolution des sifflantes sémitiques dans les phases anciennes de l'histoire de la langue acadienne est correcte. L'acadien sargonique n'a pas aboli complètement la distinction originelle entre les sifflantes ch et s d'un côté et l'interdentale th de l'autre côté. Les phonèmes du premier groupe sont, au moins dans le cas idéal, transcrits par les signes de la série s ou s strich dans le système de transcription introduit pour l'acadien sargonique par von Soden, la série ch étant réservée à l'ancienne interdentale. Or, selon Sommerfeld, cette distinction est valable non seulement pour les syllabogrammes de type CV, mais aussi pour ceux qui finissent en M, à savoir Schum qui rend Schum et Thum s'oppose à Sum qui rend Thum autant que à Zum, Zum, Sum et Zum. On doit admettre que Sommerfeld lui-même n'offre aucune confirmation pour une telle distribution. Et effectivement, la nature du corpus sargonique est telle qu'un nombre plus ou moins impressionnant d'exemples pertinents serait difficile à trouver. Quelques exemples connus de moi se limitent à un nombre réduit de noms propres, tels comme harashum, cultivateur, fermier, à comparer avec l'arabe haratha, cultivé, ou pirhashum, puce, comparable avec l'arabe burghouf. En outre, comme on le voit très clairement aujourd'hui, le système des oppositions phonologiques dans le domaine des sifflantes a commencé à s'affaiblir dès le sargonique. Dans de telles conditions, on ne trouve rien de surprenant dans le fait que, même nom propre cultivateur-fermier puisse être rendu alternativement comme hara-shum et non pas hara-sum. C'est donc à Ebla ou une preuve définitive pour la valeur thum du signe, pour le signe sum doit être recherchée. Et non sans succès. Comme Manfred Krebernick et Giovanni Conti l'ont reconnu, au moins dans la grande liste lexicale bilingue, le système mentionné ci-dessus est bien documenté, comme le montrent des exemples comme Pasha Sum ou Pi Sum, équivalent au sumérien Shu'i, Ondre, Wan, ou Aza Ha Sum, équivalent au sumérien ou La Aki, une plante. Certes, aucune étymologie sémitique avec « th » n'est pas disponible dans le deux cas en question, mais les graphies alternatives avec les syllabogrammes de la série « sh » « pashashum » et « azashuum », une série qui est toujours réservée aux interdentales à Ebla, ne laissent aucun doute sur la nature phonétique du syllabogramme « sum » dans les plus anciennes traditions cunéiformes sémitophones. Un exemple étymologiquement plus certain peut être attesté dans Vocabulario di Ebla 1214, Wa-ru-duz sum ou Wu-ru-duz sum, en dam, équivalent au sumérien U-munus-du-11, interprété comme to give the wife the right to take over the possessions after the death of her husband par Okeshober, qui, à juste titre, établit un rapport entre les formes éblaïtes et la racine ouest sémitique commune wrth héritée. On remarquera encore une fois dans ce cas une graphie alternante avec chou. La densité fondamentale entre le proto-sémitique thum et le sumérien sum étant assurée sémantiquement autant que phonétiquement, on doit admettre qu'une coïncidence fortuite entre les deux termes, envisagée comme une possibilité par Sommerfeld, devient fort difficile à imaginer. Il doit avoir une certaine relation diachronique entre les deux formes. Et il nous reste qu'établir la nature de cette relation. On emprunt sémérien en sémitique, on emprunt acadien en sumérien ou on emprunt indépendant fait par les deux langues à une troisième langue inconnue. La troisième solution, toujours possible théoriquement, n'a aucune chance d'être prouvée et par conséquent ne va pas être discutée ici. La première solution, en acadisme en sumérien, est codifiée par les deux traditions assyriologiques et sémitologiques. Elle repose sur des raisons phonologiques et sémantiques évidentes et ne paraît pas exiger d'arguments spéciaux. C'est la deuxième hypothèse, fort intéressante comme on doit l'admettre dès à présent, qui a besoin d'une sérieuse argumentation. En fait, dans sa vigoureuse défense de cette hypothèse, Sommerfeld a pu énoncer quelques arguments en sa faveur qui méritent d'être soigneusement analysés. Merci.